VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel, bonjour à tous. Le prix Nobel de médecine 2018 a été attribué aujourd'hui à l'américain James Allison et au japonais Tatsuo Honjo pour leur découverte ayant permis de faire avancer la connaissance dans le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui l'Académie royale des sciences de Suède. Le Nobel de médecine est le premier des prix Nobel décernés chaque année. Les prix en sciences, littérature et paix ont été créés à l'initiative de l'inventeur de la dynamite Alfred Nobel et sont décernés depuis 1901. Le prix Nobel de littérature ne sera pas remis cette année en raison d'une affaire d'inconduite sexuelle. Dernière ligne droite au Cameroun. Cette semaine, avant la présidentielle, plus de 6,5 millions de Camerounais sont appelés dimanche à élire leur nouveau président pour donner ou non un septième mandat à Paul Biya, âgé de 85 ans, dont 35 au pouvoir. Jamais une élection camerounaise n'avait pris place alors que l'armée est déployée dans 3 des 10 régions du pays, l'extrême nord où elle combat les djihadistes de Boko Haram et les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest où des séparatistes armés réclament l'indépendance. Ceux-ci ont menacé d'empêcher le bon déroulement du scrutin dans ces régions quadrillées par les forces de l'ordre et de sécurité. L'État camerounais a d'ailleurs décrété 2 jours de couvre-feu dans les régions anglophones. Idriss Fall.
Ce couvre-feu instauré dimanche et lundi dans les régions anglophones est en vigueur de jour comme de nuit. Il implique en particulier l'interdiction des transports publics et privés ainsi que la fermeture des entreprises et des débits de boissons selon le sous-préfet de Boya, chef-lieu de la région du sud-ouest. Les séparatistes ont promis de perturber le scrutin présidentiel du 7 octobre. 9 candidats sont en liste. Le président sortant Paul Biya a tenu son premier meeting de campagne pour un 7e mandat à la tête du pays. Samedi, à Maroua, dans l'extrême nord, il a déclaré que pour restaurer la paix dans les régions anglophones, il faut manier à la fois fermeté et dialogue et rester unis et solidaires. C'était sa première visite officielle dans une province camerounaise depuis 2012 et sa première parole publique depuis février. Monsieur Biya a parlé une quinzaine de minutes pour remercier les habitants pour leur accueil. Il a promis aussi la prospection pétrolière ainsi que le retour du tourisme qui s'est tari après les attaques de Boko Haram.
En Côte d'Ivoire, ouverte le 28 septembre dernier, la campagne pour les élections municipales et régionales du 13 octobre bat son plein. D'Abidjan, la correspondance de Georges Ibrahim Toukara.
En meeting ce dimanche après-midi dans l'un des quartiers de Yopougon, commune dont il sollicite le suffrage, Zié Koulibaly Daouda, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a fait beaucoup de promesses.
Je propose à Yopougon une gestion municipale à visage humain. Nous avons proposé la création de 230 conseils consultatifs. Les associations, les quartiers seront gérés avec la municipalité en même temps. Et les 8 milliards de la mairie vont être gérés en collaboration avec les quartiers. Donc Yopougon, pour le PDCI, c'est du concret. Et le congrès, c'est associer les quartiers, associer les jeunes à la gestion.
Zié Koulibaly Daouda aura fort à faire face au maire sortant, Gilbert Kafana Koné, porte-étendard de la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. À Brobo, dans le centre, et à Daloa, dans le centre-ouest, les candidats investis par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se disent confiants.
Docteur Fatmata Traoré, candidat dans la région de Bekin et dans la commune de Brobo. Mais je vais mettre l'accent sur le rôle, la communication au niveau des femmes, des jeunes, parce que les programmes de développement, comme c'est une élection locale, il faut mettre l'accent sur le développement local, ce qui intéresse la population.
Je suis Samba Koulibaly, maire sortant et candidat à sa succession. À Daloa. Nous pensons que nous allons faire une campagne apaisée qui va dans le sens de la réconciliation nationale, une campagne qui va se faire dans la paix. On va mettre l'accent sur notre bilan, parce que je pense qu'on a un bilan dont on n'a pas à rougir, on peut être fier de ce bilan.
Les Ivoiriens auront le regard particulièrement tourné vers la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, où le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, sera face à un candidat soutenu par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais ce double scrutin intéresse-t-il vraiment les Ivoiriens et qu'en attendent-ils?
On a faim, on n'a pas d'élection. C'est parce qu'il doit avoir élection, la course légale France. Bon, j'attends le développement. Plus on a besoin de développement, donc il faut passer par là. Donc
vous allez voter?
Bien sûr, je vais le faire.
Tout en appelant à des élections apaisées, la commission électorale indépendante, la CEI, dont l'indépendance est mise en doute par certains partis politiques, se veut rassurante.
Je voudrais vous inviter à unir nos forces pour les franchir sans heurts dans la paix, la solidarité et l'esprit civique. Enfin, vous, candidats, je voudrais vous rassurer que la commission électorale indépendante continuera, encore une fois, à demeurer dans son rôle d'arbitre juste et impartial.
Ces élections municipales et régionales sont un test pour les différentes chapelles politiques en prélude à la présidentielle de 2020. Elles permettront surtout aux anciens alliés de la coalition au pouvoir, le PDCI et le RDR, d'évaluer leurs forces dans la perspective de cette présidentielle. Georges Brahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Au Nigeria, les deux principaux syndicats de salariés ont annoncé hier la suspension de leur grève après l'ouverture de discussions avec le gouvernement sur une hausse du salaire minimum. Rosine Munezero.
Ayuba Waba, leader syndical nigérian, a annoncé hier la suspension de leur mot d'ordre de grève. Selon lui, le gouvernement a accepté de renouer le dialogue dans les prochains jours, les 4 et 5 octobre. Les syndicats réclament un salaire minimum entre 107 et 154 euros par mois, alors qu'il est actuellement de l'ordre de 42 euros. Le Congrès du travail du Nigeria, qui regroupe les ouvriers, et le Congrès syndical du commerce pour les cadres avaient appelé leurs membres du secteur public et privé à cesser le travail mercredi. La grève a été bien suivie le lendemain dans les administrations publiques. Seulement, les 36 États de la Fédération nigériane ont toujours fait part de leur opposition à une quelconque augmentation du salaire minimum. La plupart de ces États doivent encore plusieurs mois d'arriérés de salaire à leurs employés, malgré les renflements liquides dont ils ont bénéficié cette année de la part du gouvernement fédéral.
Au moins un militaire malien a été tué dimanche et plusieurs personnes, dont des civils, blessés dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du Mali, d'après des sources de sécurité. Par ailleurs, un groupe armé, principalement Touareg, combattant les djihadistes près de la frontière nigérienne, dans le nord-est du pays, le mouvement pour le salut de l'Azawad a fait état dans un communiqué de 7 civils tués dans une attaque samedi contre la localité d'Ambalaoulou. Cette information n'a pu être confirmée de sources officielles dans l'immédiat. Le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental a salué dimanche l'invitation à des discussions lancées par le médiateur de l'ONU, Horst Köhler, pour tenter de relancer un processus de paix moribond. Le Maroc, qui contrôle la majeure partie du territoire et en revendique la souveraineté, le Polisario ainsi que les deux voisins, Algérie, soutien du Polisario, et la Mauritanie, qui a contrôlé brièvement une partie du Sahara occidental dans les années 70, ont reçu vendredi des invitations à se rendre à Genève les 5 et 6 décembre.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En Syrie, le Front National de Libération, FNL, une coalition de groupes rebelles dans le nord-ouest syrien, a affirmé être opposée au déploiement des forces russes dans la future zone démilitarisée prévue par un accord sur la province d'Idlib, ultime grand bastion insurgé du pays en guerre. L'accord prévoit la création d'ici au 15 octobre d'une zone tampon en forme de fer à cheval sous contrôle de la Russie, alliée de Damas et de la Turquie, soutien des rebelles. La déclaration du FNL dimanche soir reflète une nouvelle fois la confusion régnant autour de l'accord. La Cour internationale de justice rendra mercredi une décision très attendue dans la procédure engagée par Téhéran en juillet contre Washington pour contester le rétablissement des sanctions américaines, accusant les États-Unis d'étrangler son économie. L'Iran a entamé une bataille judiciaire devant la CIG après la réimposition par Donald Trump de sanctions unilatérales sévères contre Téhéran, jusque-là suspendu en vertu de l'accord international sur le nucléaire iranien. Le président américain a retiré en main son pays de cet accord, signé en 2015 par l'Iran et les grandes puissances, dans lequel la République islamique s'engage à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique. Washington estime que le rétablissement des sanctions est nécessaire afin de protéger la sécurité internationale. Et puis, les deux Corées ont commencé aujourd'hui à déminer une section de leur frontière commune en application d'un accord conclu le mois dernier lors du troisième sommet intercoréen Ces opérations doivent s'étendre sur une période de 20 jours. La péninsule est depuis le début de l'année le théâtre d'une exceptionnelle détente qui a été confortée par trois rencontres entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un, dont la dernière en septembre, et c'était à Pyongyang, au nord. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.